Mare Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Zinzinex et vous écoutez Radio Zinzine et l'émission Mare Nostrum. C'est le 46e numéro de cette émission. Et dans cette émission, nous allons nous intéresser à la ville de Marrakech, ville des possibles, ville qui, d'une petite ville provinciale, est devenue un des spots du tourisme mondial, donc des transformations intéressantes pour l'anthropologue, le sociologue qui va être notre invité aujourd'hui, qui est également directeur de recherche au CNRS. Michel Perali, bonjour.
Bonjour.
On a déjà eu l'occasion de se rencontrer, de faire un entretien sur Istanbul. Et donc, on va peut-être faire comme ça le tour de quelques villes méditerranéennes ensemble. Alors, entre autres, vos recherches portent sur les dynamiques migratoires en Méditerranée, les circuits commerciaux qui sont souvent associés. De là, vous êtes intéressé, bien évidemment, aux villes méditerranéennes, un certain nombre. Marseille, Istanbul, Naples, Le Caire, Tanger...
Le Caire, non.
Tanger.
Oui.
Tanger, oui. Casablanca.
Oui.
Aussi, voilà.
Qui est une ville atlantique, hein.
Oui, c'est vrai. C'est une ville atlantique. Mais les méditerranéistes, on en parlait hors micro tout à l'heure, se l'approprient un peu, quand même.
Ouais, la Méditerranée est grande. Hein.
La Méditerranée est grande, elle s'est étendue de plus en plus.
Peut-être qu'elle est même à l'échelle du monde aujourd'hui. Voilà.
Alors donc, on va parler de cette ville et peut-être faire le point au début. Donc au début du XXe siècle, même à la fin du XIXe, comment se présente cette ville de Marrakech avec, si vous voulez bien, les éléments que vous donnez à propos de quelqu'un, bon, bien sûr que je ne connaissais pas, bien évidemment, qui s'appelle Émile Mauchamp, qui est un des initiateurs, selon vous, de ce développement de cette ville. Alors, comment elle se présente, cette ville ?
Alors, il faut le resituer à l'échelle historique du Maroc. Je tiens à préciser avec beaucoup de prudence que je ne suis pas du tout historien, mais que des vieilles adhérences foucaldiennes, etc., font que... quand je travaille sur des objets, j'aime bien leur donner la profondeur historique, donc travailler sur la généalogie des choses et tout. Voilà. Mais je ne suis pas historien, donc des fois je fais des bêtises. Voilà. Alors, il faut resituer le Maroc dans cette époque précoloniale, mais vraiment juste au moment où le Maroc va basculer dans la colonisation. Le Maroc, d'abord, est divisé en deux. Il y a un Maroc... traditionnel qui va devenir français, qui est marocain, qui est indépendant. Et puis il y a le Maroc au nord, qui est espagnol. Donc avec une ville internationale qui est Tanger. La quasi-totalité des villes qu'on connaît aujourd'hui n'existe pas. Enfin, en tout cas, n'existe pas comme des villes développées. Casablanca n'existe quasiment pas. Rabat existe, mais dans sa position par rapport à Salé, Rabat est quasiment une périphérie, une banlieue de Salé, qui est la grande ville portuaire, et y compris la grande ville de la piraterie. Voilà. Donc il y a deux villes au Maroc. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a deux villes au Maroc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux dispositifs urbains avec une histoire lourde, etc. Il y a Fès, d'un côté, qui est devenue la ville du pouvoir, la ville de la bourgeoisie, la ville de l'industrie. Donc Fès est la capitale du Maroc, au sens le plus traditionnel du terme. Et Marrakech, dont le nom, d'ailleurs, le nom Maroc vient de Marrakech. Donc Marrakech a été à l'origine quasiment la grande ville du Maroc, etc. Et dans ces années 1900-1910, c'est une petite bourgade de 70 000 habitants. Qui vit du souvenir du commerce de transsaharien dont elle a été une des grandes étapes. Le commerce transsaharien, c'est le commerce de l'or qui remontait de l'Afrique, etc. Le commerce du sel qui descendait. Donc voilà, Marrakech a été une des villes de ce commerce. Donc elle vivote en gros de ses souvenirs ou de sa tradition de transhumance et de mobilité. Une des raisons qui m'a fait m'intéresser à Marrakech, c'est que alors Je fais une petite parenthèse pour dire que, comment dire, les anthropologues urbains, ce qui nous intéresse dans la ville, c'est vraiment la tradition la plus classique de l'école de Chicago, c'est quand une ville est un laboratoire social. Et une ville est un laboratoire social parce que, au fond, le pouvoir de l'État est toujours un peu défaillant, toujours un peu fragilisé, complexifié dans les villes. Le pouvoir des forces tribales, familiales, etc., lui aussi, il est un peu mis à mal. Et donc la ville est dans une espèce comme ça de lieu un peu incertain de pouvoir, de desserrement, on va dire, des ordres sociaux. Et donc c'est un laboratoire, il s'y passe toujours des choses qui transforment la société. Et Chicago a été un des berceaux de l'anthropologie urbaine, parce que c'est un des berceaux de la société industrielle. Voilà. Donc les anthropologues urbains, quand ils vont s'intéresser à la ville, ils sont toujours en train de chercher cette espèce d'effet laboratoire. Et si je suis allé à Marrakech, alors c'est parce qu'il y avait du tourisme et que je pense qu'aujourd'hui le tourisme est une des clés économiques du développement urbain, à Paris, à Marseille, partout, à New York, ou même
ça pèse très loin. Voilà.
Donc des formes touristiques qui ont beaucoup changé. Donc Marrakech, pour le coup, était très intéressant de ce point de vue. Et puis à cause de la mobilité. Parce que la mobilité, aujourd'hui, c'est la grande affaire de la ville. Je veux dire, on n'habite plus les villes, en fait, on les parcourt. On peut habiter au Puy Sainte-Réparade et puis travailler tous les jours à Marseille. Au contraire, habiter à Marseille et puis tous les jours venir à la fac à Aix. Donc on est dans des univers sociaux de mobilité. Et je ne sais pas pourquoi exactement, peut-être un peu d'intuition, mais je trouvais que Marrakech était très représentatif de ces formes de mobilité aujourd'hui et de la manière dont la mobilité organisait la ville. Mmh. Et donc je suis allé chercher ça à Marrakech. Évidemment, comme je l'ai cherché, je l'ai trouvé. Ça fait partie des voilà. On revient sur Mauchamp ou...
Peut-être un mot, oui, sur Mauchamp, parce que c'est un personnage intéressant.
Mauchamp, c'est un personnage littéralement ignoble et qui est assez caractéristique de cette arrogance, de cette formidable arrogance du 19e siècle. Alors il cumule toutes les arrogances. Il a l'arrogance du français qui est persuadé d'être une civilisation supérieure. Il a l'arrogance du médecin qui est persuadé que sa science va sauver le monde. Il a l'arrogance de la bourgeoisie et des notabilités bourgeoises qui prétendent... Donc il cumule toute une série d'arrogances et les complexes qui vont avec cette arrogance. Mmh. Donc en tant que notable, il est le fils d'un père qui a une personnalité écrasante, élu Chalon-sur-Saône, etc. En tant que médecin, il a au-dessus de lui des médecins beaucoup plus brillants, etc. Donc il cumule à la fois l'arrogance et les complexes. Et donc il part au Maroc et il est le premier expat, au sens qu'on emploie aujourd'hui du terme expat. Il débarque à Marrakech en 1907. Il ouvre donc, payé par l'État français, il ouvre le premier cabinet médical expatriés. Hein. Et là, il cumule tous les désastres possibles. C'est-à-dire que toutes les conneries qu'on peut faire quand on débarque dans un pays qui n'est pas le sien, il les fait. Il se met à dos les Touaregs, il se met à dos le pouvoir marocain, il se met à dos ses propres payeurs, c'est-à-dire que les diplomates le haïssent parce qu'il se prend pour un diplomate, il donne des conseils au consul, enfin c'est des trucs comme ça, avec toujours une arrogance énorme et tout ça. Et il mobilise autour de lui tellement d'agacement, de haine, etc., qu'il finit par se faire lyncher par une foule énervée au moment où la colonisation du Maroc devient une sorte d'inéluctable portée par les grandes puissances, l'Allemagne, l'Angleterre, la France, etc. Et donc lui devient un peu la victime expiatoire des tensions qui sont liées à la colonisation. Donc il se fait lyncher, hein, quand même.
Oui, véritablement.
Quoi. Véritablement, oui, ouais, il se fait lyncher, de conditions assez sordides, le pauvre, bon, voilà. Et Lyoté profite, Lyoté qui, à l'époque, est donc en Algérie, hein, installé en Algérie, mm-hmm. Lyoté profite de l'occasion, c'est le cas de le dire, pour rentrer au Maroc et conquérir militairement le Maroc, conquête militaire très très symbolique, puisque l'UOT passe par Oujda, où il n'y a personne, il descend jusqu'à Fès, et à Fès, il se fait bloquer par l'armée marocaine, et donc il reste à Fès bloqué pendant quelques temps, dans des positions un peu compliquées, voilà. Et il finit donc à Marrakech dans les années 1910. Donc Mauchamp est une sorte de héros du colonialisme, complètement oublié dans les 4 ou 5 années qui suivent sa mort, donc on lui fait un deuil national, etc. Puis dans les 4 ou 5 années après, comme il a servi de façon très cynique pour la diplomatie, hop, il est oublié, on l'oublie. Et moi, j'étais fasciné à la fois par cet oubli, parce que je me disais, mais comment se fait-il que ce type... Donc il a créé l'hôpital de Marrakech, etc. Et il est complètement oublié. Il n'y a aucune rue qui porte son nom. Les historiens... Mauchamp tient même pas 13 lignes dans le grand bouquin de Rivet, qui est le grand historien du Maroc colonial. Mauchamp tient 3 lignes l'histoire du Maroc d'Abid Bol aussi, qui est un gros travail récemment sorti. Mauchamp fait 3 lignes et tout. Donc c'est vraiment un personnage oublié. Donc je me dis, comment ça se fait qu'on peut l'oublier, ce personnage? Et en même temps, il est généalogiquement le premier expat français arrivé au Maroc. Et je parlais de cette arrogance et ce mélange d'arrogance et de complexe. Et Mauchamp était une sorte de personnage symbolique chez qui on retrouvait aujourd'hui un certain nombre de traits qu'on trouve chez les expats français, ouais, qui sont allés créer des riades, des affaires et des entreprises à Marrakech. Voilà. Donc je l'ai pris un peu comme personnage symbole.
Ouais, ouais.
J'ai fait le prologue du livre sur lui pour un peu raconter tout ça.
Oui, parce qu'il y a ajouté aussi l'affairisme.
Essayer, c'est-à-dire qu'il a essayé à un moment donné de faire un peu du trafic d'objets d'art, comme Pierre Loti d'ailleurs, hein, parce que Pierre Loti est parti au Maroc, il est quand même parti du Maroc, il est allé faire un petit voyage officiel au Maroc, quand même revenu avec 8 mules chargées de bijoux,
ah oui,
de meubles, de sabres, d'armes, etc. Donc voilà, on partait au Maroc piller les richesses de ce pays qui en avait, puisque c'était un royaume, une royauté avec une bourgeoisie, etc. Mm-hmm. Donc des richesses, il y en avait. Et donc Mauchamp, il a fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il avait commencé à accumuler un certain nombre d'objets, des tapis, des meubles, etc. Donc comme sa maison est pillée, saccagée, ça est brûlé et part en fumée avec lui.
Et donc, j'ai trouvé une expression sur la ville elle-même, là, que vous avez, d'abord vous avez parlé de Marocomania, et puis vous avez parlé de ces voyageurs qui parlaient d'une ville du passé dans un bel environnement, et cette espèce de dualité d'une ville où il n'y a pas grand-chose qui se passe, et autour c'est assez beau, le spectacle est assez beau, les paysages sont assez beaux.
Ouais.
Hein, un petit peu cette vision-là de certains voyageurs à cette époque-là, tout début du XXe.
Ouais, on est vraiment dans la, comment dire, on est vraiment dans la généalogie de l'imaginaire touristique.
Oui.
Là, et moi, ça m'a assez intrigué, ça. Parce que je me disais, mais d'où vient cet esprit, d'où vient cet attrait pour les choses? Alors, il y a au moins deux choses qui me semblent au fondement de la généalogie du tourisme. La première chose, c'est une sorte de retournement. C'est-à-dire que, je vais le dire de façon peut-être un peu caricaturale, mais bon, après, les historiens corrigeront. Voilà. Ça fera l'occasion de me taper dessus. Bon, ils vont y prendre beaucoup de plaisir. Et il y a une sorte de retournement. C'est-à-dire qu'au fond, les voyageurs du XVIIIe siècle voyagent pour s'oublier, se perdre dans le paysage. À travers la culture de l'autre, etc., bah, en quelque sorte, se retrouver une personnalité perdue et tout ça. À partir du voyage au Maroc, mais ça peut être aussi dans d'autres lieux, évidemment, on a l'impression que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de narcissisme benoît, tranquille, et parfois même totalement ennuyeux, que développent les voyageurs au Maroc. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont se contempler eux-mêmes dans le paysage. Donc ils se mettent dans un paysage et ils se contemplent à travers le paysage. Et il y a par exemple un texte de Loti qui, de ce point de vue-là, est tout à fait intéressant, où Loti dit « Ah, je suis en phase d'un pays... Il ne passe rien, en gros, je suis dans un paysage ennuyeux, etc. Et je jouis de moi-même dans ce paysage.
Voilà. » Ah oui, c'est tout à fait.
Et donc c'est très significatif.
C'est tout à fait dans ce cadre-là, voilà. Ouais.
Et c'est très intéressant parce que c'est un peu la même chose qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire cette espèce de volonté d'aller se contempler soi dans la beauté. Donc on se met dans la beauté et tout d'un coup, narcissisme épanoui, se contempler soi-même face à au miroir du monde. Et donc ce tourisme-là, ce type de tourisme se développe sur. Et Marrakech devient une de ces villes où on va en quelque sorte se contempler soi dans le monde.
Ouais, c'est un peu ce qu'on trouvait dans la Beat Generation aussi.
Oui, ça c'est ce que...
C'est une suite logique. Quoi.
Tout à fait, mais ils vont aussi être des inventeurs de Marrakech.
Ouais,
parce que le propre de Marrakech, c'est qu'elle est inventée plusieurs fois. C'est-à-dire, compte tenu de l'histoire du Maroc, on l'invente dans les années 1910-1912, dans ce grand moment de Marocomania... qui est une mode, mode très parisienne du Maroc, dans les salons parisiens. On l'invente dans les années 30, quand Lyoté et puis le fameux Pacha de Marrakech réinventent un Marrakech touristique avec l'hôtel Mamounia qui devient un lieu dans lequel descendent un certain nombre de gens, etc. Par parenthèse, on l'invente complètement dans la suite de cet autre tourisme qui est très peu connu, d'ailleurs. Il y a une historienne qui travaille là-dessus, qui s'appelle Colette Zidiki, qui a fait des travaux formidables sur le tourisme en Algérie. Et on oublie assez facilement que l'Algérie a été un haut lieu touristique que l'État français a pensé, inventé, et qu'il y a eu, dans certains oasis algériens, il y a eu un véritable développement touristique lié à un thermalisme du désert, etc.
Oui, voilà. Oui, ça, et donc, j'ai repéré ça.
Voilà. Et donc le Maroc est une invention conséquente de ça, y compris par la grande compagnie transatlantique qui développe ce genre de choses. Donc la Mamounia est une des conséquences de ce tourisme. Donc à ce moment-là, on réinvente Marrakech. Et troisième invention, c'est au moment de l'indépendance. Et là, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas du tout les Français, mais c'est les Américains qui débarquent au Maroc, d'abord à Tanger, et notamment avec Paul Bowles et un certain nombre d'écrivains, Burroughs, etc. Je pensais à un autre, je trouve plus son nom, qui invente Tanger, le Maroc, etc., et qui invente au Maroc une sorte de... Le Maroc est une sorte de Japon, c'est-à-dire, alors c'est complètement fantasmé, mais c'est une sorte de conservatoire. Le Maroc n'a pas été colonisé par l'Empire ottoman, il a été très peu colonisé, parce qu'il a été colonisé 40 ans par les Français, et donc les Américains, la Beat Generation notamment, se réinventent une sorte de Japon, de lieu préservé, et qui en plus a l'avantage de produire un produit qui les intéresse beaucoup, qui s'appelle le cannabis, qu'ils vont chercher là-bas, qui s'appelle le kiff à l'époque, donc ils vont aller chercher là-bas et qui leur procure des effets extrêmement intéressants
Ça les intéresse mieux au paysage.
Voilà.
On va écouter un peu de musique et vous proposer Habib Zahir, qui est donc une star de la chanson traditionnelle à Marrakech, qui a chanté une chanson, celle que j'ai trouvée, Lala Fatima.
غير كل ما في النار مش على ديما
Alors donc, cette ville de Marrakech, elle va être finalement colonisée, une colonisation douce menée par Lyoté, et cette colonisation douce va apporter quand même des transformations importantes dans la ville et dans la société marrakechienne.
Ouais. Alors, colonisation douce, oui, mais soyons clairs.
C'est colonisation quand même.
C'est colonisation quand même. Et puis cette douceur, elle n'est absolument pas une éthique et un choix éthique ou philosophique. C'est un choix très pragmatique pour une raison simple. C'est qu'en 14-18, la France, pour l'essentiel, mobilise son armée sur les fronts de la guerre de 14. Et donc on a besoin de trouver d'autres modes de colonisation que l'envoi massif de troupes, etc., etc. Donc du coup, la douceur, elle est aussi une conséquence très pratique de la guerre de 14. Et très astucieusement, parce que je pense que c'est astucieux politiquement, Lyoté, comment dire, marocanise le Maroc pour le coloniser. Alors ça peut paraître paradoxal de le dire comme ça, mais il invente littéralement une culture marocaine, un imaginaire marocain, etc. Et donc le tourisme va complètement contribuer à ça. Il y a une invention d'une marocanité.
C'est remarquable, ça.
C'est remarquable et ça demanderait un travail anthropologique un peu fin sur ce que sont en réalité ces aristocraties un peu décadentes en France à l'époque et qui, y compris à travers le Maroc, une fascination pour les pachas, pour l'aristocratie marocaine, etc., en quelque sorte se réinventent en miroir une dignité et tout ça. Et donc, il y a des textes, par exemple, des frères Tarot qui sont des journalistes appointé par Lyoté pour aller d'abord faire l'article sur la colonisation et puis tresser les lauriers, les louanges de ces pachas qui sont des féodaux éclairés, etc., qui massacrent joyeusement. Après, on va s'apercevoir quand même qu'ils massacrent. Les féodaux en question massacrent joyeusement, esclavagisent leur peuple, recrutent les milliers de prostituées dont l'armée française a besoin. Donc, je veux dire, voilà. Après, on aura une autre image des pachas. Mais donc, la colonisation douce, c'est ça. Et du coup, cette invention d'une marocanité fait que on a l'impression que la France, en réalité, soutient l'État marocain, soutient l'émergence et la conservation et d'un État et de son imaginaire et de sa puissance et de ses codes, de ses rites, etc., et que la France n'est donc là que pour soutenir en quelque sorte un État marocain qui aurait été fragilisé par les mondes industriels. Donc c'est très astucieux, c'est très malin. Ça va durer quelques années, parce qu'en réalité, Lyoté va être mis dehors et remercié dès la fin de la guerre de 14-18. Ouais. Il va être mis dehors. Et à ce moment-là va commencer la vraie colonisation, elle, donc, va être très classiquement une colonisation d'appropriation, de confiscation, etc., et qui va se... une des particularités de Marrakech, c'est que cette colonisation dure, pour l'opposer à douce, qui commence dans les années 20, hein, c'est très rapide, en fait, elle va se dérouler plutôt sur la grande plaine marocaine, ce que Lyoté appelait avec un peu de cynisme le Maroc utile, et donc elle va se développer entre Fès et Casablanca, avec des villes comme Meknès, qui va être la grande ville coloniale du Maroc. Hein. Fès va être une ville... Meknès va être une ville très appropriée par les Français, comme Casablanca. Et du coup, Marrakech, qui est à l'extérieur de tout ça, qui est en limite de zone désertique, au bord de l'Atlas et tout... Ben, elle survit, popote, un peu endormie, avec une ville coloniale qui a du mal à prendre, le Guelliz, qui est la ville coloniale que Lyoté a essayé d'inventer. Bon, ça ratatouille un peu popote, c'est réinvesti par des Marocains, et notamment, par exemple, par des Juifs marocains, qui profitent de l'occasion pour sortir du Mella. Le Mella, c'est le quartier juif dans lequel ils sont pour le moins étouffés, contenus, etc. Donc quelques riches juifs profitent de l'occasion pour sortir du Mella et s'installent. Et s'installe dans la ville, dans le Guelliz, dans la ville coloniale. Mais c'est une ville qui vivote, popote un peu tranquillement, et que le tourisme va développer, mais beaucoup plus tard.
On est d'accord. C'est-à-dire que là, toute cette période, finalement, il n'y a pas d'élan important concernant...
Non, la deuxième chose qu'il faut dire, parce que ça aussi, c'est une chose que j'ai aimé découvrir, je veux dire, par rapport à l'histoire, parce que, encore une fois, je suis d'une grande naïveté sur l'histoire, c'est que l'armée française qui conquiert Marrakech, qui descend donc dans le sud pour chasser, parce qu'il y a, c'est des histoires très compliquées, mais en gros il y a une tribu du sud qui est montée du sud de Mauritanie, qui est allée conquérir Marrakech, s'est installée à Marrakech, donc qui menace aussi le pouvoir marocain, bien sûr. Et donc l'armée française, la glorieuse armée française, part chasser El Hima, donc ce conquistador, part chasser El Hima de Marrakech. Donc on ne va pas conquérir Marrakech au nom de la colonisation française, on va libérer Marrakech de El Hima. C'est une grande différence rhétorique, mais oui, ça compte. Et donc l'armée française qui... en 1912, qui descend conquérir Marrakech, c'est une armée de bras cassés, c'est une armée de branquignoles, c'est-à-dire c'est une armée dans laquelle il y a une centaine d'officiers français, il y a 5000 soldats qui sont sénégalais et algériens, qui ont été recrutés en Algérie et au Sénégal, et derrière lesquels il y a toute une flopée de boutiquiers, il n'y a pas d'autre nom, de boutiquiers, d'aventuriers, de branquignoles, de pieds nickelés, qui suivent cette armée française et qui vont être les premiers colons dans Marrakech. Et qui sont siciliens, grecs, certains commerçants marseillais ou toulonnais qui vont s'installer, qui suivent l'armée. Donc ils suivent l'armée pour lui vendre de la viande, parce que l'armée en consomme, des chevaux, mais qui vendent aussi de l'eau de vie, des prostituées. Donc c'est tout cette espèce d'impedimenta là qui suit l'armée et qui vont devenir les premiers à s'installer sur Marrakech. Et donc il y a... 2 ou 3 années, ça dure très très peu de temps, disons de 1912 à 1918, pendant que justement les Français sont occupés ailleurs, Marrakech devient, à son échelle, une ville cosmopolite. Et donc, par exemple, la place Jemaa el Fna, qui est aujourd'hui le cœur touristique de la ville, la place Jemaa el Fna, on voit s'installer une quincaillerie, on voit s'installer une boucherie française, qui va rester d'ailleurs jusqu'aux années 30, qui fabrique un des meilleurs saucissons du Maroc, donc en élevant des cochons, etc. Le café de France, on va avoir un café grec qui s'installe rue des Ferblantiers, on va avoir des compagnies, des gens qui rachètent les pots, parce qu'on vend des pots. Donc on a toute une série de un peu sur le mode des villes western, on a toute une série de gens qui sont le peuple interlope cosmopolite de la ville qui s'installe à Marrakech. Et Marrakech se cosmopolitise. Et ce qui est très étonnant, c'est là où j'en viens sur les découvertes qu'on peut faire, c'est que l'UOT, qui est donc dans une logique de marocanisation du Maroc et d'invention d'une marocanité... Quand ils chassent les marchands du temple, en réalité, ils ne chassent pas les Français ou ils ne chassent pas les Marocains. Ils chassent, en fait, la possibilité de cette ville cosmopolite qui est en train de se développer dans Marrakech. Et donc, il intervient. Mais après, dans les années 20, il intervient de manière très rigoureuse. Donc, il impose des règlements d'urbanisme très stricts, la fameuse couleur rouge de Marrakech. Il impose une hauteur aux constructions, etc. Il impose un style marocain à cette ville qui était en train de se cosmopolitiser. Et il sépare la Marrakech marocaine, la Médina, de la Marrakech européenne pour en faire 2 villes. Donc c'est vraiment très intéressant. Enfin, en tout cas, pour l'anthropologue urbain que je suis, c'est très intéressant de voir que ce qui a eu lieu partout ailleurs, c'est-à-dire une ville qui se cosmopolitise, qui multiplie les minorités, machin et tout, ce mouvement est en train de se produire au Maroc et il est cassé immédiatement par le pouvoir français qui n'en veut pas. Pas de cosmopolitisme à Marrakech. Les Marocains d'un côté, les Français et les Européens de l'autre. Et on sépare tout ce monde-là. Voilà. J'avais trouvé ça très intéressant.
Ah oui. Et ça ne se produit pas dans d'autres villes du Maroc ?
Pas à ma connaissance, pas à ma connaissance, parce que Rabat, Fès reste la ville du pouvoir et reste une ville très profondément marocaine. Le développement touristique de Fès va commencer dans les années 2010, pas avant. Mmh. Donc c'est une ville qui reste une ville marocaine. Rabat devient la ville du pouvoir. Et donc, ceux qui s'installent là, c'est un autre chemin. Aujourd'hui, Rabat est une ville cosmopolite, parce que, précisément, la diversité des pouvoirs aujourd'hui au Maroc et dans le monde fait que Rabat, c'est la ville-monde au Maroc. C'est la ville dans laquelle sont installées toutes les légations, tous les consulats, tous les ambassades, etc. Et aujourd'hui, Rabat est une ville cosmopolite. Mais Casablanca est une ville industrielle française qui se crée, etc. Donc, non, il n'y a pas d'autres villes cosmopolites qui se créent au Maroc. Ce que pourrait être Oran, par exemple, en Algérie, oui, qui sera aussi une ville cosmopolite. Donc l'État français empêche que ça se réalise et se fasse. Et fait de Marrakech... Alors ça aussi, c'est une particularité. Lyoté, qui a une vision très aristocratique et très élitiste de l'armée française, développe une sorte de corps d'officiers, qui sont des officiers qui sont formés à l'arabe, qui parlent même plusieurs langues arabes. Hein, ils ne parlent pas une seule langue arabe. La parlent, la pratiquent, l'écrivent, la lisent, etc. Ils deviennent en quelque sorte les ancêtres de nos orientalistes d'aujourd'hui, hein, et deviennent donc de très fins érudits, et forment une espèce d'élite autour de Lyoté. L'homosexualité est très présente aussi hein, dans ce monde-là. Mmh. Et Marrakech devient un peu cette ville. Parce que de toute façon, ça ne peut pas être autre chose. Casablanca, c'est la ville de l'industrie, c'est la ville des colons, c'est la ville, c'est la ville des forges, quoi. Hein. Ouais. Fès, c'est la ville marocaine, on n'y touche pas. Rabat, c'est la ville du pouvoir. Donc Marrakech est la seule ville à peu près appropriable pour justement développer ces fantasmes d'orientalisme élitiste à l'intérieur desquels donc, se développe cette sorte d'ordre monastique, néo-monastique, ouais, que sont les officiers et la garde rapprochée autour de Lyoté, et qui vont être les premiers touristes, en réalité.
Oui.
Et qui sont très proches de cet esprit touristique, un peu élitiste, orientaliste, etc., qui vient justement jouir de soi, parce que le paradoxe est là, on vient jouir de soi au Maroc, chez les autres. Jouir de soi chez les autres.
Une petite pause musicale avec quelque chose de particulier, c'est quand Led Zeppelin va jouer avec les Niawa à Marrakech en 1995. Donc Jimmy Page et Robert Plant chantent avec un orchestre à moitié marocain, City Don't Cry. On approche de l'indépendance. Je rappelle que vous êtes sur Radio Zinzine, vous écoutez Mare Nostrum. Je suis avec Michel Peraldi et nous parlons de Marrakech, cette ville devenue le spot touristique mondial et qui avait été auparavant une petite cité tranquille, on va dire.
Oui.
Voilà. Donc, la colonisation menée par Lyoté, nous en avons parlé. Et voyons un petit peu, nous approchons de l'indépendance avec une mutation importante de cette ville.
Alors, au moment de l'indépendance, Marrakech est déjà une ville touristique. Hein, c'est-à-dire que la Mamounia existe, le casino a été repris. Marrakech est déjà une ville touristique qui hésite un peu entre deux formules touristiques, mais au fond, c'est la même classe sociale. C'est-à-dire qui hésite un peu entre ce que serait un thermalisme du désert. C'est une époque où, de toute façon, Marrakech, toujours aujourd'hui, est une ville dans laquelle il y a 0% d'humidité. Très fortement conseillé à tous les gens qui sont affectés de rhumatisme, etc. Lloyd George, le grand Lloyd George anglais, allait soigner ses rhumatismes à Marrakech dans les années 30. Ah. Churchill aussi, évidemment. Donc, hésite un peu entre une sorte de néo-thermalisme du désert et puis ce tourisme qui est le tourisme des casinos, des grands hôtels, etc. Moi, j'appelle ça le tourisme d'enclave. C'est-à-dire qu'au fond, on va faire au soleil ce qu'on fait très bien chez soi et on le fait un peu plus profondément parce qu'il n'y a pas le regard des autres et le regard de la bonne société qui fait que on peut jouer au casino, se bourrer la gueule, fréquenter des prostituées... sans que ça fasse la une des journaux. Donc, voilà. Et Marrakech hésite un peu entre ces deux types de tourisme qui sont en réalité la même classe sociale, c'est-à-dire une espèce de bourgeoisie, de jet-set internationale. La particularité, c'est que donc il y a El Tami qui est le pacha de Marrakech, et qui est un personnage assez extraordinaire dans les années 30, qui est donc celui à qui l'État français a confié la gestion de la ville, et qui gère donc la ville, qui gère les tribus, qui gère les terres, etc., qui s'approprie, qui s'accapare à peu près tout ce qu'on peut s'accaparer, mais qui est aussi une figure du milieu parisien. Donc il est très à la mode à Paris, et donc il a ses entrées au Moulin Rouge, aux Folies Bergères, etc. Il est l'amant déclaré d'un certain nombre de chanteuses françaises, et très connue dans les milieux parisiens. Donc il fait la navette entre les deux. Et Marrakech est pour lui une sorte d'arrière-cour, une sorte de palais. La ville entière, la Mamounia est au fond une annexe de son propre palais, dans lequel il reçoit les hommages et la légitimité que lui donnent les hommages de tous les visiteurs célèbres qui viennent sur Marrakech. Donc il s'appelle El Glaoui, Tami El Glaoui, qui est le grand pacha de Marrakech. Donc dans les années, au moment de l'indépendance, tout ça existe encore. Alors El Glaoui a pas mal d'ennuis au moment de l'indépendance, puisqu'il était quand même très proche de l'État français. Mais l'État marocain récupère tout ça...
En l'état.
À peu près en l'état, et perpétue les formes de tourisme qui sont là. Et le deuxième événement qui va donc marquer l'indépendance, c'est l'arrivée des Américains. Ouais. Et l'arrivée des Américains, la Beat Generation, on a entendu Led Zeppelin et d'autres qui viennent... Alors, ils viennent sur Tanger, parce que c'est Tanger qui est leur lieu. Il faut savoir que Tanger a été une ville internationale. Tanger n'est pas du tout une ville marocaine. Enfin, elle est marocaine aujourd'hui, mais à l'époque, c'est une ville internationale et dans laquelle la légation américaine a un rôle très fort. Donc Tanger est un spot américain dans lequel viennent donc Paul Bowles, Truman Capote, Burroughs, etc., toute une série d'écrivains. Et derrière ces écrivains, les groupes musicaux, les Rolling Stones passent par Tanger, Led Zeppelin, etc. Et arrive sur Marrakech un milliardaire, Getty Junior, qui est consommateur de produits psychotropes, etc., marié à une sorte de gourou de la mode, etc., qui débarque à Marrakech avec un architecte dont il va être le mentor, etc., et achète un des très beaux palais de Marrakech, qui a été la propriété de Bernard-Henri Lévy, dans les derniers propriétaires. Donc avec une succession comme ça des grands palais, et qui donc lance la mode des riades, lance la mode de l'orientalisme revisité par ces grands architectes, réinventé en quelque sorte, et sorti de son contexte artisanal. Voilà. Donc Marrakech se relance dans les années 60 comme étant la ville de cette marocanité qui n'existe que pour les touristes. Le tourisme fait qu'un certain nombre de gens sont capables aussi de réinventer théâtralement leur propre culture. C'est ça le paradoxe du tourisme. Je veux dire, mon ami Daniel Fagé sait très bien qu'il y a des tropéziens plus tropéziens que les tropéziens, parce qu'ils jouent à être tropéziens. Donc cette capacité à surjouer sa propre culture est une des caractéristiques des villes touristiques. Et comme les gens y croient, parce que c'est pas du tout des hypocrites, les gens y croient, donc c'est toujours des lieux de culture où la culture est plus cultivée que dans d'autres lieux. Voilà. Mm-hmm. Et donc Marrakech devient plus marocaine que ce qu'elle est probablement réellement, parce que y a ce théâtre-là qui est partagé. Voilà. Donc c'est dans les années 60, c'est cette Beat Generation américaine qui réinvente Marrakech. Et là, les choses commencent à devenir intéressantes parce qu'encore une fois, des architectes, des créateurs de mode, etc., commencent à venir à Marrakech et commencent à comprendre qu'on peut sortir un certain nombre d'objets culturels. Le tadlak, par exemple, qui est cet enduit qui servait dans les hammams, qu'on peut sortir du hammam pour en faire des choses, des fantaisies. Les tissus, les très beaux tissus de soie qui sont traditionnels, les tapis, les éliges qu'on sort aussi comme ça. Donc toute une série de gens comprennent très astucieusement qu'on peut sortir de leur lieu traditionnel un certain nombre d'objets et les transformer, les mettre à la mode et les transformer en objets industriels. Mmh. Et donc commence là un processus qui va devenir à Marrakech une des clés économiques du développement de Marrakech, qui est cette capacité de réinventer. Luc Boltanski, qui a écrit là-dessus sur l'économie de l'enrichissement, cette capacité à enrichir un certain nombre d'objets traditionnels pour en faire des marchandises et pour en faire des filières industrielles.
Voilà. Ouais, une nouvelle couche donc, de population qui arrive et qui va tirer parti de cette marocanité pour s'enrichir.
Oui, pour s'enrichir.
Pour enrichir peut-être la culture également, pour enrichir...
Pour enrichir et pour à la fois mettre à la mode les objets. Oui. Donc on met à la mode la ville dans laquelle on prend les objets justement qu'on a enrichis. Le mot enrichir a deux sens de ce point de vue-là. Au sens économique, c'est un mot littéral, c'est-à-dire qu'on prend quelque chose qui vaut rien et qu'on transforme en quelque chose qui vaut très cher. Dans le bouquin de Boltanski, Enrichissement, il traite le cas des couteaux Layol. Moi, je trouve cet exemple magnifique. Ce petit couteau de berger qui n'est même pas fabriqué à Layol, qui est fabriqué à Thiers, et qui devient tout de coup un objet rare, etc., parce qu'il est enrichi. Et il est enrichi comment ? C'est pas du tout parce qu'on le transforme avec des matériaux nobles, etc. C'est tout simplement parce que on le constitue, on lui donne une histoire et un récit. Et c'est la capacité à faire récit et à faire histoire de cet objet qui l'enrichit. C'est-à-dire qu'un vulgaire verre en plastique dont on peut raconter l'histoire en assurant que Gengis Khan a bu dans ce verre va tout d'un coup devenir un objet extrêmement luxueux, puisque Gengis Khan a bu dedans, quand même, c'est pas rien. Il a uriné aussi, peut-être, mais bon, on sait pas. Donc c'est ça qui enrichit l'objet, c'est la capacité à lui raconter une histoire. Et donc on a des entrepreneurs à Marrakech qui arrivent et qui sont des raconteurs d'histoire. Et qui sont aussi des raconteurs de leur propre histoire à travers les objets. Et qui font de ça, de cette capacité à créer des objets et à raconter des histoires dessus, ils en font une industrie. Voilà. Y compris parce que les lois du travail, les lois économiques au Maroc sont extrêmement laxistes et extrêmement généreuses. Et que donc c'est beaucoup plus facile de créer de l'entreprise et de créer de l'industrie au Maroc que de le faire à Layol ou à Thiers ou à Marseille, par exemple.
Oui, donc c'est le business qui prend possession, en quelque sorte, qui s'approprie un certain nombre d'objets, puis peut-être même l'artisanat. en
oui,
soi.
Oui, tout à fait, tout à fait. Tout l'artisanat.
Qui va rentrer dans le processus.
Oui, parce qu'il y a y compris, alors ça c'est une singularité historique de Marrakech. Marrakech est une grande ville d'artisanat. Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y a toujours eu un artisanat qui a été développé, du fer forgé, des meubles, etc. Mais Marrakech est aussi un centre commercial dans lequel un certain nombre d'artisans du Maroc venaient vendre leurs objets. Et donc, on a, par exemple, les gens qui faisaient des tapis, les faisaient dans des régions de l'Atlas, mais venaient les vendre à Marrakech. Tout le travail de l'osier, le travail de la paille, etc., était fait vers Beni Mellal, qui est une ville du centre du Maroc, et les gens venaient le vendre à Marrakech. Donc Marrakech était un centre artisanal, parce qu'un certain nombre d'artisans venaient y vendre, où ils fabriquaient leurs produits. Par exemple, bon, les gens qui fabriquaient l'osier, ramassaient l'osier tout l'hiver, venaient avec les brassées d'osier, s'installaient à Marrakech, dans les fondoks, travaillaient l'osier à Marrakech, et ensuite le vendaient, et puis repartaient chez eux, etc. Donc on avait une sorte de mobilité artisanale qui était une des singularités de Marrakech. Et donc ces entrepreneurs qui arrivent à Marrakech s'approprient tous ces savoirs, presque au sens physique du terme, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'artisans sont sortis de la Médina et sont mis en usine. C'est littéralement le putting out system, hein. Ce que décrivent les historiens sur l'invention du capitalisme au XVIIIe siècle, c'est ça. On prend les artisans, les canuts à Lyon, etc., on prend les artisans, on les sort de leur boutique ou de leur atelier et on les met dans les usines et ça devient des ouvriers. Ben, ce processus, ça s'appelle, les historiens appellent ça le putting out system, se développe à Marrakech dans les années 70, et un certain nombre d'industriels sortent les artisans de leurs ateliers et les mettent dans des usines où ils fabriquent les mêmes produits industriels.
Mmh. C'est un peu une prolétarisation de ces artisans.
Prolétarisation, non, parce que le revenu, la vie des artisans dans la Médina, c'est tout le contraire d'une richesse, c'est tout le contraire. Mais prolétarisation au sens marxiste du terme, c'est-à-dire au sens domination du terme, oui, certainement. Ouais. Oui, certainement.
D'accord. Un petit peu de musique. Alors cette fois-ci, Mahalem, maître Hicham Merchan, qui chante El Lahada. C'est de la musique j'arrive pas à le dire, Gnawa.
Gnawa.
Gnawa. Thank you. s'approche un peu du terme de cette émission, sur ce qui se passe à partir des années 2000, des ruptures, un développement urbain important, et puis le rôle de l'État et du roi en particulier dans ce développement.
Ouais. Alors, Marrakech, 70 000 habitants en 1912, 1,5 million très facilement aujourd'hui, donc un développement urbain, et qui a été relativement lent, mais qui n'inclut pas les touristes, les résidents secondaires, etc. Il est très difficile de dire aujourd'hui combien, au fond, il y a d'habitants. Qu'est-ce que veut dire le terme ? Avant même de dire combien il y a de monde, combien il y a de personnes
au
Marrakech,
commencer par définir,
il faut définir ce que sont les habitants. Est-ce que les Rabatis, c'est-à-dire les gens qui vivent à Rabat, les Kazaouis, qui viennent tous les week-ends à Marrakech dans des résidences secondaires, est-ce que ce sont des habitants de Marrakech ? On les comptabilise où ? À Casa, à Marrakech, etc. Les touristes, enfin touristes entre guillemets, les entrepreneurs français qui ont des affaires à Marrakech, qui y sont toutes les semaines. Moi, je connais quelques bourgeois marseillais qui ont des maisons à Marrakech et qui y sont toutes les semaines. On fait toutes ces affaires du lundi au jeudi. Le jeudi soir, on prend l'avion et on part à Marrakech. Donc tout ce monde, au fond, de la mobilité, il est à Marrakech et il fait le développement de la ville. Et paradoxalement, il fait pas. Il y a une sorte d'écart entre la démographie constatée par les démographes, on va dire, et puis la démographie réelle de cette ville. Donc ce mouvement commence dans les années 80, 80-90. Marrakech devient une ville dans laquelle il fait bon aller, dans laquelle, y compris que c'est une ville pas chère à l'époque, c'est une ville dans laquelle il y a des riades qu'on peut louer de façon très intéressante. Donc elle se développe dans les années 80-90. Hassan II a un peu des problèmes avec Marrakech, quand même. Donc il aime bien y jouer au golf, mais il voit avec beaucoup d'agacement se développer la palmeraie. Il comprend pas trop ce qui se passe dans cet espace qui devient un lieu de bourgeoisie européenne qui s'installe dans la palmeraie. Donc il est partagé entre la fascination et l'agacement pour cette ville. Et en fait, c'est son fils, c'est Mohamed VI, qui va développer Marrakech dans les années 2000.
Oui, il y a un véritable intérêt.
Il y a un véritable intérêt, un véritable engouement et une véritable stratégie. C'est-à-dire que moi, j'ai appelé ça la méala royale parce que c'est une façon de nommer les choses dans une continuité historique. La méala, c'était ces grands déplacements de la cour, la totalité de la cour, l'armée royale se déplacer, s'installer dans un endroit où il y avait des querelles, des conflits, des rivalités entre des tribus, distribuer un certain nombre de choses, faisait la paix entre les tribus et repartait. Donc le camp royal s'appelait la Méala, qui était l'installation de tout le monde. J'ai pris cette métaphore parce que on a vraiment l'impression, enfin pas l'impression, dans les années 2000, le roi met un nombre massif de moyens sur Marrakech pour développer la ville. Donc on ouvre l'autoroute qui va permettre de venir de Casablanca en 2 heures, de Rabat de 3 heures à Marrakech. Donc c'est déjà quelque chose d'important. On développe l'aéroport qui existe depuis la colonie française, mais qui n'a jamais été très développé. Et puis surtout, on crée des grands programmes de construction, des grands promoteurs, qui en réalité vont vendre une partie de Marrakech au Malakché, donc vide une partie de la Médina, mais surtout vont vendre Marrakech dans les salons internationaux, en Belgique, en France, etc. Y a un travail qui a été fait par une jeune géographe qui a fait une très belle thèse sur les périphéries de Marrakech. 25% de ce qui est commercialisé, des logements qui sont commercialisés à Marrakech à partir des années 2000 jusqu'aux années 2010, sont commercialisés à ce qu'on appelle les MRE, les Marocains résidents à l'étranger. Ah 25%. Oui. Donc Marrakech devient aussi la ville des MRE qui ne veulent plus investir au bled parce que c'est très compliqué pour eux. Et qui veulent quand même investir au Maroc. Donc Marrakech est une sorte de compromis entre le bled où on n'a plus envie d'investir parce qu'on n'a plus envie d'avoir la famille sur le dos, en réalité.
Oui, on n'a plus envie d'y aller, en fait.
Ouais, on n'a plus envie d'y aller, surtout que parfois le bled, c'est un peu triste.
Oui, il n'y a pas grand-chose à y
moche.
Faire.
La marocanité, parce que quand même, on reste marocain, donc on investit au Maroc. Et donc c'est en gros la deuxième et troisième génération des migrants marocains qui investit à Marrakech de façon très importante. Donc voilà, la Méala royale met le paquet avec un wali de choc qui va d'ailleurs ensuite être envoyé à Tanger et qui va être dans une méala tangéroise, va être le grand opérateur de Tangermed, etc. Donc on a à un moment donné une concentration de moyens très importante sur Marrakech qui développe la ville et l'offre urbanistique et l'offre d'aménagement sur la ville, avec un maire aussi... qui est Jazouli, Omar Jazouli, qui est un maire et qui comprend très bien l'intérêt de développer le riad européen dans la Médina et qui donc, de manière très généreuse, rend possible l'ouverture de la Médina aux Européens, qui n'est pas ce qu'on entend beaucoup dire sur la gentrification, la Médina qui menace d'être européenne. À tout casser, parce qu'il y a des chiffres difficiles à établir, il y a 2000 à 2500 Européens qui sont installés aujourd'hui en Médina. 240 000 habitants dans la Médina, ça fait tout petit 10% de la Médina qui a été réappropriée par ces Européens, dans des quartiers très spécifiques et très localisés. Donc on est quand même loin d'une énorme opération de gentrification, etc. Voilà. Ça existe, mais c'est un phénomène qui est relativement contenu. En revanche, la Médina est devenue le haut lieu du tourisme riad, avec des hôtels qui se font passer pour des riads, mais qui sont des hôtels, avec etc. Donc là, il y a un autre développement de la Médina dont il faudrait discuter. Voilà. Et l'autre date fondamentale pour le développement touristique, c'est 2007 et l'arrivée des compagnies low cost sur Marrakech et qui là vont déverser. Donc Marrakech aujourd'hui, c'est 3-4 millions de touristes selon les années. C'est la première ville touristique. Elle a pris le pas sur Agadir. C'est la première ville touristique du Maroc. Et c'est devenu une des destinations incontournables d'un certain nombre de grandes compagnies de tourisme qui ont des hôtels, qui ont des lieux de loisirs, etc. Donc voilà, c'est une destination touristique qui est un tourisme qui hésite un peu entre le parc d'attractions, c'est-à-dire que Marrakech se transforme très lentement en Marrakech-Land, c'est-à-dire en une sorte de grand Disneyland dans lequel on offre à la fois de l'orientalisme, ce qu'il en reste, ce fameux narcissisme, ce fameux soin de soi qui devient une industrie réellement. C'est une très grosse industrie à Marrakech. On va à Marrakech, encore une fois, se faire plaisir, se faire du bien. C'est devenu aujourd'hui une industrie à soi seul qui fait partie de cette Marrakech-landisation de Marrakech qui est portée par un certain nombre d'entrepreneurs, quoi.
Oui, c'est un lieu où tout le monde doit aller. Donc, il y a en même temps l'image de la ville qui s'est transformée de façon définitive. Dans cette dernière décennie.
Oui, parce que cette industrie du tourisme. Alors là, il faut devenir économiste. On enlève la casquette de l'anthropologue. Le problème de l'industrie touristique, c'est que c'est une industrie de séquence. Tourisme dure un mois, deux mois, etc. Et donc, il faut derrière le tourisme inventer sans cesse des raisons de revenir. Et donc, il faut inventer. Alors, il faut inventer le festival du cinéma de Marrakech. Il faut inventer le festival de la magie, etc. Donc, il y a toute une série d'entrepreneurs marocains, souvent marocains d'ailleurs, parfois européens, parfois américains, qui passent leur temps à inventer des raisons de revenir à Marrakech.
Donc, des événements.
Des événements, le festival, le Jamel du Rire, machin, etc. Donc, de façon à ce que Marrakech soit occupé 365 jours par an. Le problème de Marrakech, c'est l'inverse de nos stations balnéaires. C'est que juillet-août, Marrakech est invivable. Juillet-août, septembre, chaud, il fait très chaud. Il fait 50 degrés à l'ombre. Alors, on a en gros quand même 7-8 mois qui sont 7-8 mois pendant lesquels Marrakech, c'est une ville tout à fait agréable et tout. Donc, il faut inventer sans cesse des raisons d'aller à Marrakech parce que l'industrie touristique nécessite ce genre de choses.
D'accord. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a à peu près bouclé notre temps. En tout cas, ça nous a peut-être donné envie et ça a peut-être donné envie à nos auditeurs d'aller passer quelques vacances à Marrakech. Merci Michel Peraldi pour toutes ces explications, cette analyse de Marrakech et de sa population. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent nous écouter le jeudi à 12h30 et le samedi à 15h à 19h en alternance sur 88.1 et sur nos sites radiozinzine.org ou radiozinzinex.org. Et sur ce dernier site, on peut réécouter et télécharger les émissions dans la rubrique Les émissions Mare Nostrum. Vous avez également une messagerie pour y laisser des messages. Et puis je vous invite aussi à nous suivre sur notre page Facebook où vous avez des informations concernant l'émission. Les émissions sont annoncées, on donne quelques informations complémentaires, etc. Je rappelle Michel Peraldi que vous avez écrit un livre qui s'appelle Marrakech ou le souk des possibles aux éditions La Découverte. Et je rappelle encore une fois que nous avons la chance maintenant d'être diffusés également sur une autre radio internet qui s'appelle Radio Octopus de la région de Toulouse. Au revoir, à bientôt.
شبابهم ولاد احبابهم اقلبوا كفيله ملك.